9h41, l'instant MC, parti, profitez-en.
Merci d'être avec nous ce soir.
C'est ça quand on est en direct.
Que vous regardiez peu ou beaucoup la télé, vos habitudes ont changé. 6 milliards de vidéos venues de la télé ont été vues sur vos ordi, tablettes et téléphones depuis le début de l'année. En tête du classement, Secret Story, Plus belle la vie et Touche pas à mon poste. La télé où on veut, comme on veut, quand on veut donc, mais surtout une télé dont les chaînes vous importent de moins en moins. Ce que vous retenez, c'est le nom de l'émission, voire celui de son animateur. Bonjour Jean-David Blanc.
Bonjour Sonia.
Vous êtes le créateur d'Allociné. Vous avez une toute petite voix ce matin.
Ah non, je vous écoute.
Vous êtes le créateur d'Allociné, donc ce site bien connu du public, avec Pierre Lescure. Entre autres, vous avez créé Molotov, une application au cœur des nouvelles façons de zapper ou de ne pas zapper. On va en parler. On jette d'abord un œil sur l'actu et puis on accueille Tristan Mendès France. Bonjour Tristan.
Bonjour.
Bienvenue dans l'équipe de l'Instant M.
Merci. L'Instant M. Tous les médias sont sur France Inter.
Alors on pouvait s'y attendre quand on a vu l'ancien patron de Vivendi, la maison mère de Canal+, rejoindre le groupe SFR. SFR donc se lance à l'assaut du cinéma en mordant sur les terres de Canal+, à qui l'opérateur avait déjà piqué, souvenez-vous, le foot anglais. Signature de contrats exclusifs avec Discovery et toutes ses chaînes découvertes, et avec NBC Universal, avec des chaînes dédiées aux séries et au ciné, et des films qui vont nourrir l'offre de vidéos à la demande de SFR, comme par exemple...
Moi, c'est méchant.
Voilà. Et tout ça est pile au cœur de vos activités, Jean-David Blanc. On va en reparler, évidemment. Le Sénat a tranché hier après-midi. La publicité sera définitivement supprimée de toutes les tranches jeunesse de France Télévisions et de leur site où les petits héros de dessins animés font un tabac. Mesure plus que louable, évidemment, pour protéger nos enfants de l'hyperconsommation. Mesure portée par le groupe écologiste. Mais la question, elle demeure. Qui va combler le manque à gagner de nos chaînes publiques? Elles financent et coproduisent des programmes d'animation françaises devenues des championnes à l'exportation. Pendant ce temps-là, les moins de 10 ans, je le sais, pour être mère de famille, se gavent de sketchs de youtubeurs sur YouTube où ils sont systématiquement exposés à la publicité. Alors, Tristan Mendès France, petit éclairage ce matin dans l'Instant M sur la chaîne d'information internationale RT ou Russia Today, qui s'est vu épingler tout récemment par le Parlement européen comme étant l'un des principaux vecteurs d'une vaste campagne d'intox, s'attachant particulièrement à, comment dire, saper l'unité européenne.
Oui, il y a même une résolution qui a été approuvée par le Parlement européen et qui dénonce quand même une campagne coordonnée de désinformation menée par le Kremlin. Il se trouve que Poutine a assez mal réagi d'ailleurs à cette accusation et a lancé à travers Russia Today carrément un appel, tenez-vous bien encore une fois, à l'ONU, l'UNESCO et Reporters sans frontières pour dénoncer une attaque contre sa propre liberté d'expression, ce qui ne manque pas de piquant.
C'est ça. J'ose pas imaginer la réaction de Reporters sans frontières, parce que dans le même temps, pas un mot sur les graves entraves à la liberté de la presse en Russie. D'où vient RT ?
Alors, c'est un média international qui a été créé en 2005 par un ancien ministre de la communication devenu conseiller de Vladimir Poutine. Et c'est un média qui est directement financé par le Kremlin et les contribuables russes à hauteur de plusieurs milliards de dollars depuis son lancement. Et je crois que même il y a une semaine, la Douma, donc le Parlement russe, a augmenté d'un milliard d'euros rouble son budget annuel.
Alors, la Russie est en crise.
Oui, et en plus.
Voilà.
Et particularité donc propre vraiment à Russia Today, elle a pour habitude de dissimuler ses origines russes. Alors ne dites plus d'ailleurs aujourd'hui Russia Today, mais dites RT, sans le Russia, ce qui est particulièrement pratique. Et si vous allez sur le compte Twitter ou Facebook de Russia Today, vous ne verrez nulle part que le QG de Russia Today est à Moscou. Alors Russia Today se présente comme une sorte de plateforme d'information alternative, un peu... aux médias occidentaux et surfe sur le discrédit assez général, malheureusement, des médias autour de la planète. Et il nourrit un discours anti-système bien rodé.
Voilà. Et le Parlement européen, c'est ça qui nous a sauté aux yeux, a bien souligné l'utilisation que RT fait des réseaux sociaux.
Oui, et elle est particulièrement spectaculaire. Alors d'abord, sur Russia Today, sur Twitter, c'est environ 2,4 millions d'abonnés. Sur Facebook, 4 millions de j'aime. Mais c'est surtout sur YouTube qu'on mesure vraiment l'amplitude, l'efficacité de Russia Today avec, tenez-vous bien, 1,8 milliard de vues pour la chaîne principale de Russia Today sur YouTube. 1,8 milliard. Juste pour un point de comparaison, CNN, sa chaîne principale sur YouTube, atteint 1,5 milliard voilà. de vues.
Donc c'est dire, hein, c'est dire la puissance quand même du bateau mère de la propagande russe à l'international.
Oui, il faut dire que Russia Today repose essentiellement sur les réseaux sociaux et que les réseaux sociaux sont en train de rebattre toutes les cartes de l'influence au niveau de la planète et elle permet à des États même pas très démocratiques d'avoir accès et de pénétrer dans nos pays qui sont eux-mêmes beaucoup plus ouverts que la Russie. Et d'ailleurs, il y a 20 ans à peine, qui avait accès à la propagande russe, à la propagande, je sais pas, iranienne ou même du président Assad, quasiment personne. Aujourd'hui, tout est à la portée d'un tweet.
Voilà, alors RT se présente comme une chaîne high-tech, mais aussi, et c'est important de le souligner, comme un incubateur de théories conspirationnistes.
Oui, alors Russia Today, évidemment, noie le poisson. Il présente d'abord l'essentiel de l'information qui est présentée sur ses réseaux est parfaitement crédible, mais l'essentiel, c'est que c'est la voix de la Russie. Et elle n'hésite pas, cette chaîne ou ce réseau d'information, à tordre la réalité sur ce qui se passe dans le Donbass, en Ukraine, en Crimée ou en Syrie. Et vous pouvez ajouter à ça, en plus, que les plateaux sont quasiment ouverts aux personnalités d'extrême droite de tous les pays. Ça va de Alain Soral, je ne sais pas, à un ancien du KKK, David Duke, qui est actuellement d'ailleurs un soutien de Trump.
Voilà, mais le KKK, c'est le Ku Klux Klan.
Ah, ouais. Oui. Et également, d'ailleurs, tous les théoriciens du complot de la planète sont également invités sur Russia Today. Ça va de Thierry Messant, autour du 11 septembre, au pape du conspirationnisme américain, Alex Jones, dont je vous rappelle qui est une star sur les réseaux sociaux et qui atteint quasiment 1 milliard de vues à lui tout seul sur YouTube.
Voilà, et c'est sans limite quand même. Il y a eu ce jour d'octobre 2015 où RT a diffusé un sujet sur Hillary Clinton que vous m'avez montré.
Affligeant, effectivement, où il présente Hillary Clinton tout simplement comme la candidate des Illuminati. Et pour preuve, simplement un logo d'une start-up qui travaillait pour la campagne de Clinton et qui contenait un triangle qui serait soi-disant le symbole des Illuminati.
D'accord.
Tout ça est assez affligeant et d'autant que c'est dans cette même séquence, l'animatrice soulignait avec lourdeur le fait que les financeurs de cette start-up parlaient l'hébreu, sous-entendu, ils étaient juifs.
Et ben voilà, tout est dit. Merci Tristan.
L'instant M avec Sonia De Villers.
Je peux manger devant la télé, allez, rien qu'une fois, s'il vous plaît.
Non.
Ok, c'est parti.
Merci. On y va ? C'est moi qui tente le plateau ?
Non, j'y vais. J'ai peur. Prenez votre tarte.
Oui, merci. Venez là. Alors, on n'est pas bien ?
Oh !
Alors, c'est pas un...
Il y a quoi ce soir à la télé ?
Je crois qu'on peut lancer l'épisode 1.
Alors, Jean-David Blanc, la question c'est comment aujourd'hui on regarde la télé et comment vous avez essayé de réfléchir à la façon dont les Français regardaient la télé. Alors, ce soir, on peut hésiter entre ça, par exemple.
Qu'est-ce que c'était ? Un tyrannosaure ?
Je ne crois pas. Ça a l'air plus gros.
Voilà, ça c'est Jurassic Park et ça sera et Jurassic Park et ce sera sur NT1. Sinon, il y a ça aussi.
Bonsoir à tous, bonsoir à vous Léa Salamé.
Bonsoir David.
Voilà, ça ce sera Benoît Hamon, invité de la 2, tout à l'heure, à 21h, et sinon...
Alors, qu'est-ce qu'on a ?
Un homme, la cinquantaine, c'est un jogger qui a trouvé le corps tout ce matin.
Vous avez une identité ?
J'ai trouvé aucun papier sur lui.
Tiens, qu'il a essayé de ramper pour échapper à son agresseur.
Et ça, c'est Profilage sur la Une. Sinon, il y a La Grande Librairie sur France 5, la série O.J. Simpson sur Canal, Cannabis sur Arte, Largo Winch sur TMC, Murder sur la 6. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on a Molotov ?
Vous illustrez la diversité et la richesse de la télévision. Vous parlez, là, à l'instant, juste de ce qu'il y a ce soir.
Ce soir.
2 heures de télévision sur 25 chaînes pour celle de la TNT et en réalité pas loin de 150 si vous avez accès à la télévision via Internet ou une box.
Alors l'idée de Molotov c'est qu'on a quasiment toutes ces offres sur le même écran. Sauf qu'on les a de manière un peu particulière mais on va y revenir. En réalité si vous avez belle-maman au téléphone et que vous avez raté le début de The Voice, vous pouvez rattraper le début de The Voice, si j'ai bien compris. Vous pouvez même mettre The Voice sur pause et regarder un petit coup de BFM TV en même temps.
Exactement. En fait, Molotov rend plus facile la navigation dans toute cette richesse de la télévision. D'abord, elle la rend plus lisible. En feuilletant Molotov, c'est un peu comme un genre de magazine. On feuilletterait un peu la télévision comme on feuilletterait un télérama ou un télé 7 jours. Et puis, on clique sur une vignette et si la démission est disponible, soit parce qu'elle est en live, en direct, soit parce qu'elle est en replay, elle démarre. Effectivement, si elle est en live, c'est-à-dire si elle est diffusée au moment où vous la regardez et que vous avez raté le début, vous remontez dans le temps avec votre doigt et vous revenez au début de l'émission. Mmh. C'est très pratique quand on a raté le début du journal ou le début d'un film. Mmh. Si elle n'est pas encore diffusée, vous pouvez, depuis hier, vous pouvez programmer son enregistrement. Alors nous, on a appelé ça bookmarker.
Alors on va y revenir.
En cliquant sur la vignette, le programme sera enregistré. Vous pouvez le regarder quand vous voulez.
Voilà. Et alors qu'est-ce qu'on fait si on veut regarder ce soir en même temps que tout, interrompre, enregistrer, repasser, revenir au début, Alain Chabat dans Gazon Maudit, parce que Gazon Maudit, c'est sur Énergie 12 ce soir.
On peut passer d'une émission à l'autre aussi simplement qu'on le fait sur YouTube, vous en parlez tout à l'heure, sur Netflix ou sur Spotify pour la musique. C'est en fait une modernisation de l'accès à la télévision et en plus une simplification. Parce que les chaînes s'étant multipliées ces dernières années, naviguer dans tous ces programmes de télé, c'est devenu impossible avec la télécommande. Et le temps qu'on passe de la 1 à la 50 ou à la 60, on a passé la soirée.
Ou à la 125e. Ouais. Si je vous parle de Énergie 12, c'est qu'est-ce qui se passe avec le groupe Énergie, puisque vous en avez eu recours au CSA. Mmh. Dans le groupe Énergie, il y a Énergie 12 et il y a aussi Chérie 25 qui diffuse ce soir un film avec Brad Pitt et Robert De Niro.
On a créé Molotov, on a lancé Molotov au mois de juillet. C'était déjà un énorme gageur que la quasi-totalité des chaînes disponibles en France soient disponibles sur Molotov. Je crois qu'on a plus de 90 chaînes maintenant. Effectivement, il y a des trous, il manque encore quelques chaînes, mais ça viendra à un moment ou à un autre.
Oui, c'est ça. Donc il manque encore quelques chaînes, dont celle-ci.
Dont Énergie 12.
Mais quel est l'argument ? Quel est l'argument pour ne pas venir sur une plateforme comme la vôtre ?
Ben, il faut leur demander. Ils sont les seuls aujourd'hui à refuser d'y être. Et on est obligé de faire un recours au CSA, comme n'importe quel autre distributeur qui voudrait des chaînes et qui leur demande leurs conditions générales.
Alors, et voilà. Autre question évidemment que soulève Molotov, c'est celle de l'écran. C'est-à-dire qu'avec Molotov, on peut commencer à regarder une émission tranquillement sur son canapé, mais on peut l'emporter avec soi sur son smartphone quand on va se laver les dents dans la salle de bain.
Et on appelle ça, nous, la continuité. C'est-à-dire que vous êtes dans le taxi ou dans le métro, vous regardez une émission, vous arrivez à la maison, vous éteignez l'application, ou pas d'ailleurs, vous allumez votre poste de télévision avec Molotov. On en parlera tout à l'heure de comment installer Molotov sur la télé, et vous continuez l'émission là où vous l'avez laissé sur le téléphone. Et puis vous dites, tiens, je vais me coucher, je vais dans ma chambre, j'ai un iPad. Vous éteignez la télé, vous prenez votre iPad, vous lancez l'application Molotov, et l'émission continue là où elle s'était arrêtée sur la télévision. Donc c'est la continuité d'un usage qui vous suit d'un bout à l'autre.
Alors je vous fais écouter trois extraits de programme, et vous me dites, qu'est-ce qui fait que le public choisit aujourd'hui ce qu'il va regarder?
The Voice, saison 3, la finale est ouverte.
Il est 19h10 et 34 secondes exactement, parce que nous sommes en
direct.
Le fashion show le plus sexy de l'année, déshabillé par Willy Papa, c'est dans le petit cul tout à l'heure dans le quotidien. Bienvenue à Paris.
Voilà, ce qui est quand même frappant quand on regarde la façon dont vous avez configuré cette appli, c'est de se dire que finalement le programme est devenu plus fort que la chaîne qui le porte. Et là, il y a une vraie révolution dans la perception du public et donc forcément dans tout le PAF pour les années à venir, Jean-David Blanc.
Alors, c'est effectivement vrai. Je pense que aujourd'hui, avec l'accessibilité de tout via Internet, les gens vont quand ils veulent quelque chose en particulier, quand ils ont quelque chose en tête, ils vont le chercher eux-mêmes avec les nouveaux outils. Maintenant, je suis pas tout à fait d'accord avec cette idée que la chaîne, c'est-à-dire l'éditeur, la marque, n'est pas autant d'importance que ça. Si vous prenez une émission comme la vôtre, par exemple, et imaginez qu'elle soit sur Fun Radio, est-ce que vous pensez qu'elle aurait la même saveur, la même idée, la même perception? Ou sur Europe 1, ou sur le Move, vous voyez ce que je veux dire? L'environnement dans lequel le programme se situe compte énormément.
Et en même temps, alors là on a entendu The Voice est totalement identifié à TF1, mais on a vu par exemple Yann Barthès partir avec concept armes et bagages et sa belle gueule à lui, passer de Canal+ à TMC, et on a très bien compris que les gens suivaient Barthès.
Les gens suivent, mais c'est la même chose avec, prenez là je pense à la finale de la Coupe d'Europe là cet été, on aurait pu s'attendre à ce qu'elle soit sur TF1, elle était sur M6, les gens ont suivi, parce que le programme est extrêmement fort. Mm-hmm. Si vous prenez un programme un peu moins fort, ou en création, ou nouveau, quelque part, le téléspectateur se fie à la marque de la chaîne en disant « Tiens, cette chaîne a choisi ce programme, ça doit être ce genre-là ». Je vous donne un exemple, un programme sur Arte n'aura pas la même perception que le même titre de ce programme sur une autre chaîne, sur TCM ou sur TF1 ou sur Énergie 12 par
exemple. Alors ce fameux bookmark, hein, on va essayer d'utiliser le moins de jargon possible. L'idée c'est de pouvoir stocker des programmes à distance dans le cloud, c'est-à-dire dans un nuage qui nous sert de stockage numérique. Donc l'idée c'est qu'on n'a plus besoin d'un disque dur sur sa box par exemple, ou d'un magnétoscope à la maison, et que ça peut être accessible depuis n'importe quel appareil connecté. Voilà. Donc il a fallu un amendement, il a fallu un changement législatif pour que ce soit autorisé. Pourquoi ?
On a choisi Molotov, c'est un service de télévision, un peu équivalent à celui d'une box réinventée, mais dématérialisée. C'est-à-dire sans box, sans matériel. En fait, en réalité, il y a quand même un matériel pour regarder la télévision, il faut bien un écran.
Voilà.
Sauf que c'est le vôtre, celui de votre choix, le smartphone, la tablette ou le poste de télévision et bientôt d'autres choses. Pour ce qui concerne l'enregistrement, le législateur a, dans les années 84-85, a imaginé une organisation légale de l'enregistrement au moment de l'apparition du magnétoscope, en imaginant un système de rémunération, ce qu'on appelle la rémunération pour la copie privée,
oui,
qui permet de compenser, c'est un peu technique ce que je vais raconter, mais qui permet de compenser les ayants droit,
oui,
les auteurs, les producteurs, dans le cadre d'un enregistrement, avec une forme de rémunération.
C'est ça, parce que c'est autant de cassettes et DVD qu'on n'achetait plus, quoi.
Exactement. Sauf qu'en 85, tout était physique. Il fallait, à l'époque, c'était une bande magnétique, puis ça a été un DVD ou un DVR, et après, un peu plus tard, les disques durs. Avec l'arrivée du cloud, qui est l'équivalent technologique de ça, c'était plus physique. Donc il a fallu vérifier, faire valider par le législateur le fait que à un usage équivalent de la bande magnétique de 85, le cloud pouvait être utilisé.
Alors en même temps, ça vaut vraiment pour les films, hein. Je dis ça parce que il y a Le Guépard par exemple sur Arte Dimanche, il y a Danse avec les loups lundi soir sur France 3, parce que les films ils sont rarement, hein, en replay, on peut rarement les voir en replay pour des questions de droit. Sinon toute la télé, si on l'a raté le soir même, à quoi bon l'enregistrer ?
Alors d'abord, toute la télé est loin de là que les films ne sont pas disponibles en replay. En plus, le problème des replays, c'est qu'ils sont disponibles 5 ou 7 jours, parfois 30 jours.
Parfois sur les 30 jours.
Donc on ne sait pas très bien. Et puis, vous avez, quand vous suivez une émission que vous aimez bien, le fait de savoir, d'être certain qu'elle va être conservée le temps que vous vouliez la regarder, c'est quand même plus sécurisant que de se dire ça sera dans le replay. Mais est-ce qu'il y sera ? Deux, est-ce qu'il y sera encore quand j'aurai le temps de le regarder, etc. Donc c'est un outil complémentaire du replay. Par exemple, à l'inverse, si vous n'avez pas eu l'idée avant l'émission de l'enregistrer, vous l'aurez pas. Donc le replay, c'est « Ah tiens, j'ai loupé l'émission,
c'est
je peux
ça.
L'avoir en replay. »
Alors que ça, c'est « Je me frotte les mains 15 jours à l'avance. »
Voilà, exactement.
À peu près.
C'est exactement ça.
Merci beaucoup Jean-David Blanc, c'est la fin de l'émission. Maintenant, place à Ali Rébéi, à la rampe, à la bavette et à l'onglet.
Bonjour, comment et pourquoi se passer de viande quand on est amoureux fou de la côte de bœuf ?
C'est ce que je vous disais.
Eh bien, vous pouvez appeler au 01 45 24 70.
Et ce sera juste après les infos.